Bienvenue dans Hard Power, une chronique du géopolitique qui analyse les enjeux de défense et de sécurité à l'international. Antoine vous accompagne au cœur de la géopolitique mondiale avec sérieux et légèreté.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, un organe exécutif à influence mineure, c'est le titre de ta chronique Hard Power aujourd'hui, Antoine. De quoi tu vas nous parler ?
Alors la dernière fois, je vous avais parlé de l'ONU de façon générale en vous présentant cette institution de sa création jusqu'à ses missions actuelles. Je vous avais aussi rapidement présenté ses domaines de compétences, ses moyens et puis également son organisme et sa structure. Puis dans la Charte des Nations Unies, hormis les articles qui précisent les objectifs, on retrouve aussi une énumération et une présentation des différents organes qui composent l'ONU, dont celui que je vais aborder aujourd'hui, le Conseil de sécurité, qui est l'organe exécutif des Nations Unies.
Cet organe exécutif, donc, est-ce que tu peux nous le présenter brièvement et nous dire quelle est sa responsabilité principale ?
Alors effectivement, très brièvement, le Conseil de sécurité de l'ONU est tout simplement chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Autrement dit, dès que la situation peut échapper et déraper avant qu'une situation devienne violente, guerrière, le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est d'anticiper cela. Et si malheureusement le conflit explose, eh bien ce Conseil doit essayer de le résoudre. Nous verrons un peu plus tard par quels moyens. Autrement et encore plus simplement dit, le Conseil de sécurité réagit au cas par cas aux crises qui surgissent dans le monde, soit en anticipant la crise, soit en essayant d'en atténuer la portée et la durée.
Alors ça, c'était des informations un peu généralistes, mais Antoine, j'ai confiance en toi pour aller un petit peu plus en profondeur. Est-ce que tu peux nous rappeler les membres, leurs fonctions du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Alors bien sûr Gauthier, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un total de 15 membres, dont 5 permanents, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ce sont donc les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'aurez remarqué et compris. Les autres membres sont non permanents et élus pour 2 ans par l'Assemblée Générale et renouvelés par moitié tous les ans. Ça c'était pour sa composition. Maintenant sa fonction principale, c'est de voter des résolutions qui une fois votées doivent s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Ces résolutions doivent définir le mandat, les effectifs de la mission, en réalité poser le cadre précis dans lequel s'inscrira la mission du Conseil de sécurité. Et puis ces résolutions, surtout, elles poursuivent différents buts. Elles recherchent différents objectifs et n'ont pas les mêmes cibles. On retrouve des résolutions ainsi qui ont davantage de valeur de recommandation, qui vont plutôt mettre en garde les pays ou leur donner la voie qui serait davantage souhaitable, toujours dans un objectif d'équilibre et de stabilité. D'autres résolutions prennent quant à elles clairement des sanctions, notamment économiques. Et puis enfin, certaines peuvent même engager des opérations militaire. Une fois les résolutions votées, ce qu'il est important de rappeler, c'est que ce n'est pas du tout la fin du processus, puisqu'il s'agit ensuite, et vous en doutez bien, d'évaluer l'efficacité et à terme de modifier la résolution pour qu'elle soit encore davantage plus proche de l'objectif recherché.
Si je devais tracer un tableau virtuel, qu'est-ce que je mettrais du côté des forces et qu'est-ce que je mettrais du côté des faiblesses du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Alors Gauthier, ce que je dois dire ici, c'est que les forces de ce Conseil de sécurité sont aussi ses faiblesses et ses faiblesses sont en même temps ses forces. Bref, je vais prendre des exemples et vous comprendrez sûrement mieux cette phrase qui ne voulait pas dire grand-chose. Développé avec une dimension multilatéraliste, c'est-à-dire une discussion entre différents acteurs et une décision consentie et acceptée après de multiples concertations, le Conseil de sécurité peut engager des opérations militaires communes. Mais si ces opérations sont des forces, elles peuvent devenir des faiblesses lorsque celles-ci ne sont pas unanimes. L'exemple le plus parlant, et sans aucun doute les opérations bien sûr en Irak. En 1991, vous avez 34 pays qui interviennent pour contrer l'offensive irakienne de Saddam Hussein sur le Koweït. C'est une opération concertée et décidée par le Conseil de sécurité. Mais en revanche, en 2003, le Conseil de sécurité est impuissant face à la puissance américaine dans ce que l'on appelle la Seconde Guerre du Golfe. Ensuite, l'ONU peut compter pour ses opérations de maintien de la paix sur les casques bleus qui ont plusieurs missions. Protéger les populations, d'abord, aider les pays dans leur reconstruction, renforcer les institutions des pays en transition. Mais là encore, quelle légitimité pour ces forces qui disposent d'aucun moyen coercitif et qui n'ont en aucun cas une armée de métier ou internationale ? C'est bien une force à première vue, mais en réalité une force de façade qui n'a pas ou plus réellement d'écho aujourd'hui. Enfin, le droit de veto. En effet, chaque membre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais permanent dispose d'un droit de veto qui lui permet de bloquer toute décision. Et il suffit effectivement qu'un membre utilise ce moyen pour bloquer tout le processus. Donc on voit bien que c'était à la fois un élément de force parce qu'il permet justement en concertation de dire si l'opération est viable ou pas. Et en même temps, il peut bloquer une intervention qui serait décisive pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Alors en résumé, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU est tant décrié de nos jours ?
Alors en effet, le Conseil de sécurité de l'ONU est aujourd'hui décrié, et ce pour de multiples raisons. D'abord pour son manque de représentativité. Comment expliquer que la décision finale repose sur 5 membres quand on sait que l'ONU compte aujourd'hui 193 pays membres? Je ne vais pas m'engager ici dans un calcul mathématique en direct, mais cela représente, on le voit très bien, une faible proportion de pays tout de même. De plus, ces 5 membres permanents sont, comme je l'ai dit au début, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne représentent plus aujourd'hui les réalités géopolitiques contemporaines, ou tout du moins, ils sont insatisfaisants. De nombreux pays manquent à l'appel, quand bien même ils jouent un grand rôle sur la scène internationale. On peut penser à l'Inde, à l'Égypte, à l'Allemagne, au Brésil. Et puis enfin, le droit de veto est également un élément aujourd'hui qui est fortement décrié.
Alors est-ce que des réformes sont envisagées ?
Alors des groupes ont été formés afin de changer un peu cette organisation, mais si des changements il y a, ils n'interviendront vraisemblablement pas demain. Certains pays chefs d'État s'impatientent, c'est le cas de Volodymyr Zelensky. Celui-ci a en effet demandé une réforme, car aujourd'hui la Russie étant membre du Conseil de sécurité de l'ONU, toute résolution à l'encontre de la Russie qui a, je vous le rappelle, agressé l'Ukraine est bloquée. Logique, vous me direz. C'est ainsi que le chef d'État ukrainien a dit, je cite, « Il est impossible d'arrêter la guerre parce que toutes les actions sont soumises au veto de l'agresseur. » Il a raison et cela n'est pas prêt de changer. On voit donc bien finalement qu'impuissante dans la résolution des conflits, je dirais même son anticipation. Faut-il rappeler que l'ONU avait déjà voté des résolutions dans le conflit israélo-palestinien ? Regardez où nous en sommes. En plus de cette impuissance, donc, ce Conseil de sécurité de l'ONU se voit concurrencé par des organisations supranationales. On pense bien sûr à l'OTAN. Même si je ne veux pas paraître pessimiste et qu'il faut croire à la construction de la paix de façon collective, durable, à l'heure où nous nous parlons, ce n'est sans doute pas vers l'ONU qu'il faut se tourner, ni vers son organe exécutif que représente le Conseil de sécurité. Conçu comme un gestionnaire de crise, le Conseil de sécurité se transforme plutôt en un organe dans lequel le jeu des puissances ne permet plus l'action, mais l'immobilisme aux conséquences, nous pouvons d'ores et déjà le dire aujourd'hui, un peu désastreuse.
Bon, eh bien, tout compte fait, je l'ai eu, hein, ma phrase de poète. Merci beaucoup, Antoine, c'était Hard Power. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ta chronique. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter.